Bienvenue dans cette émission spéciale du 8 mars, la journée internationale des droits des femmes, une journée pour célébrer les luttes passées, présentes, futures, pour l'égalité, une journée pour ne jamais oublier. Et pour cette émission, je suis accompagnée de Valérie et de Marie-Ange. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour Sophie.
Bonjour Sophie.
Alors, on va commencer peut-être par une petite introduction à l'histoire du 8 mars. Depuis quand, pourquoi c'est cette journée internationale des droits des femmes qui trouve son origine dans les luttes ouvrières au début du XXe siècle aux États-Unis et en Europe. On se rendra bien compte très vite que c'est tout le paradoxe de l'histoire de commencer cette histoire par les États-Unis qui pourtant nous font un pied de nez pour une lutte qui va être rétrogradée très prochainement.
Oui.
Enfin, dans certains États déjà.
Dans certains États.
Oui, dans certains États. Alors moi, je vais rebondir là-dessus. Bah, par rapport à l'IVG, justement,
où
dans certains États, bah, les femmes n'ont pas du tout le droit à l'avortement, même en cas de viol, parce que voilà, ou en cas de. Voilà, ou tout simplement parce qu'elles ont envie d'avorter.
Tout à fait.
Et je trouve ça bien triste.
Surtout que, donc, si on se remet à l'époque du début du XXe siècle, nos grands-mères. Ou alors nos arrière-grand-mères, mais c'était des milliers de femmes qui ont manifesté pour réclamer des... Alors, il y avait les meilleures conditions de travail, bien sûr, qui étaient demandées. Le droit de vote.
Oui.
L'égalité des sexes, tout simplement. Et on parlait aussi, bien sûr, de l'IVG, de la parité. Enfin, tous des mots qui venaient dans un contexte qui n'existait pas du tout à cette époque.
Et qui nous semble tellement... Je ne vais pas dire banal, mais ça fait vraiment partie de notre vocabulaire et de notre vie aujourd'hui.
Oui.
Du moins en France.
Enfin, du moins, oui, parce que moi, je me rends compte à travers de faits divers, de femmes agressées sexuellement ou violées, où là, on ne les écoute pas lorsqu'elles vont déposer plainte ou pour violence conjugale, où les personnes en face n'ont pas été formées à la prise en charge de ces personnes-là agressées, sexuellement ou physiquement ou psychologiquement. Et où on se retrouve face à des policiers, enfin voilà, tout ce système qui banalise ce que vous avez vécu. Et en fait, on se retrouve face à un mur. Et c'est comme ça que les femmes viennent déposer plainte et repartent chez elles et se font assassiner par leur conjoint, hélas, parce qu'on ne les a pas écoutées.
Je pense que ça...
Le chiffre est la, énorme. La culture du viol est encore très présente, ici.
Et je pense que ça fait accroître aussi le nombre de suicides.
C'est possible aussi, c'est possible.
Oui. On parlera des chiffres, on parlera des féminicides aussi. Là, je vous propose de vous remettre dans le contexte. On est en 1974, et c'est un document qui est tourné par l'INA, et on entend des hommes parler entre eux des conditions de leurs femmes.
Ah. Je ne sais pas si vous êtes bien avec vos femmes les uns les autres, mais enfin, quand vous avez envie de vous reposer ou de vous amuser, vous vous réunissez entre hommes quand même.
Ben oui, parce que la femme, elle reste à la maison, elle fait le ménage. Et puis nous, c'est pas notre rôle.
Bon, il est resté avec elle et l'aider ou la regarder faire, non?
Ah ben, je fais déjà le marché le samedi, c'est déjà pas mal.
Pourquoi ça vous plaît de vous retrouver entre hommes comme ça?
Il est difficile de s'entendre continuellement avec des femmes. Vous voyez au milieu de femmes, simplement, tout seul, comme ça.
On évite de parler des femmes quand on est entre hommes.
Pourquoi?
Parce que ce n'est pas... On a mieux évité ça.
Ça fait pas rêver.
Ça fait pas rêver, et dans certaines mentalités encore, je pense que ça existe encore.
Oui. Et pourtant, ce n'était pas la France profonde à l'époque.
Non, aussi bien chez les hommes que chez certaines femmes. Et moi, c'est ça qui m'inquiète aussi. C'est que... Alors, je ne vais pas... faire
un
sur les femmes.
Oui.
Mais certaines femmes entretiennent encore ça dans leur façon de voir la vie avec les hommes. De dire, voilà, je suis à la maison, je m'occupe de mes enfants et je ne fais rien d'autre que ça. Et je suis dépendante financièrement de mon mari ou de mon conjoint.
Question d'éducation.
Et c'est encore bien ancré dans certaines têtes femmes.
Oui, c'est
et
culturel.
Moi, c'est ça qui m'inquiète parce que elles perpétuent ça à travers leurs enfants.
Elles ne s'émancipent pas.
Alors après, on ne va pas les critiquer.
Bien sûr.
Moi, ça m'inquiète aussi parce que les hommes, ça c'est sûr que pour eux, on n'a aucun doute que c'est encore dans leur tête. on entend pas.
Ou ils aimeraient bien.
Des propos, ouais. Il y en a qui sont encore comme ça, il y en a d'autres qui aimeraient bien, effectivement.
Alors, on est en 1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague. Mm-hmm. Clara Zetkin propose de créer une journée dédiée aux droits des femmes. Est-ce que vous imaginez les huées qu'elle a pu recevoir
fait, ouais. Mmh. Ouais, ouais. Mmh.
En 1977, l'ONU officialise cette date comme une journée de reconnaissance mondiale pour la lutte en faveur des droits des femmes. Mmh. C'est pas gagné, hein. On non. est en 1977, c'est acquis. Wow. Mais on dirait qu'on a un petit peu donné comme un cadeau, allez, prenez-la cette journée, sans savoir vraiment ce qui se mettait derrière. Une journée qui a quand même été votée par des hommes. Hein. Donc, on passe cette journée qui sert à sensibiliser aux discriminations persistantes, aux violences systémiques et aux inégalités socio-économiques qui touchent encore des millions de femmes à travers le monde. Mmh. On se rend compte qu'il y a 50 ans qui sont passés et on avance, oui, mais très, très doucement.
On a avancé, effectivement, mais parfois on a l'impression que c'est superficiel. Comme tu dis, on nous donne quelque chose, hein, on nous donne la parole, mais dans les faits, c'est pas ça.
Non.
Voilà.
Alors, on se rappelle évidemment de Simone de Beauvoir, qui disait, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, crise économique ou religieuse, pour que les droits des femmes soient remis en question.
Complètement.
Ces droits ne sont jamais acquis.
Oui.
Vous devrez rester vigilante votre vie durant. On écoute Simone de Beauvoir.
N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant.
C'est une citation qui résonne aujourd'hui encore, alors que de nombreux pays connaissent des régressions en matière des droits des femmes. Oui. On pense notamment, bien sûr, aux pays en guerre, aux pays sous l'influence islamiste.
Ces femmes-là sont invisibilisées, mais d'une manière atroce, en fait. Hein. Elles n'ont plus du tout le droit à la parole. Enfin, on en parlait juste avant.
Oui, oui.
Là, on leur demande de se taire.
Oui,
mais elles n'ont plus le droit de parler entre elles. Bon, évidemment, elles sont
complètement couvertes.
Et ça, c'est...
Elles ne sont plus des femmes, elles sont des objets.
Complètement.
Oui, oui, oui.
Complètement, oui.
Voilà. Et bien sûr, dans les pays qui sont dits industrialisés, on pense notamment à l'Amérique, aux USA, on en parlait tout à l'heure, il y a quand même des gouvernements conservateurs qui tentent encore de restreindre l'accès à l'avortement, de limiter les droits reproductifs ou encore de restreindre la liberté vestimentaire des femmes. Les Américains sont connus, ils sont puritains.
Ah là là.
Ils sont connus pour ça.
C'est vrai, très puritains. Ouais. Ouais, ouais.
Donc l'histoire nous a montré que les acquis sociaux peuvent être très très fragiles si on ne continue pas à rester vigilante, à les défendre activement. Hein. Il suffit de voir comment les législations progressistes peuvent être abolies sous la pression des forces politiques ou religieuses réactionnaires. Il est quand même fou de voir que des fois on voit passer des images qui ne sont pas des fake news. Notamment par exemple en Iran, quand on voit des femmes dans les années 70 qui étaient habillées tout à fait modernes en mini-jupe, c'est l'époque des cuissardes.
Oui.
Et quand on voit ces femmes actuellement, il y a 50 ans qui sont passés, mais pour elles sont passées dans l'autre sens.
Hein. Alors, je vais rebondir là-dessus. Régression, hein.
Je vais rebondir là-dessus parce que je suis allée à la Comète lundi voir en fanfare et il y a une bande-annonce qui est passée sur un film iranien en fait. Alors je ne sais plus le titre, je vais essayer de le retrouver là. Et justement, c'est un couple de gens d'un certain âge qui se rencontrent. Et cette dame se maquille pour cet homme qu'elle rencontre. Je crois que c'est un taxi. Enfin, on voit toute l'émancipation de cette dame qui veut, elle, garder sa féminité. Voilà. Et puis le regard des gens sur eux, sur l'amour qui naît entre eux. Je vais aller le voir parce que je pense que c'est très intéressant et très parlant.
Et il y a aussi un paradoxe, parce que moi, j'ai vu un documentaire il n'y a pas très longtemps où la femme est presque mise en avant. Elle a le droit de se maquiller, de se faire faire les ongles, de belles manucures. Mais en fait, elle reste complètement couverte de la tête aux pieds. Et quand on les interroge, elles sont encore très, très soumises à leur mari. Donc, ça fait un peu comme un paradoxe où je pense que la femme est quelque part presque un trophée.
Oui.
C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit jolie, qu'elle soit représentative, mais une fois qu'on rentre à la maison, la femme reprend malheureusement le rôle qu'on lui donne quand elle n'est pas dehors.
On ne serait pas là, de toute façon, en train d'en parler si tout était acquis et surtout tout naturellement. Quoi.
Tout à fait.
Le droit à l'avortement, il est remis en question à chaque fois.
Alors,
dans de nombreux
pays. Je
voulais
en parler, parce qu'il faut savoir quand même que l'IVG en tant que liberté fondamentale a été inscrite seulement en 2024 au sein de la Constitution, alors que la loi autorisant l'IVG date du 17 janvier 1975, c'est la loi Veil.
Oui.
Et je me souviens d'un téléfilm que j'ai regardé dernièrement, ça s'appelait Simone, où là, on retrace la vie de
Simone
Veil.
Oui.
Et on voit ce moment où la loi est votée, mais qu'au fond, elle sent que ça ne va pas fonctionner.
Oui, enfin,
qu'on lui accorde ça, enfin, mais qu'elle se retrouve de toute façon face à des hommes. Et à l'époque, bon, la pensée encore...
Voilà, une mentalité qui
n'est
pas assise.
Et on sent
encore
cette chose, voilà. Ça a été promulgué, mais au fond, c'était pas acquis, en
oui,
fait.
Oui, acquis, tout voilà. à fait. Oui.
On en profite d'ailleurs pour écouter un extrait de Gisèle Halimi, qui était avocate militante, qui a défendu ce droit fondamental, rappelant que les femmes doivent pouvoir disposer librement de leur corps.
M'excuse de le dire, mais il faut vraiment le répéter. Je le répéterai autant de fois que j'en aurai la force pour que ça soit dit une fois pour toutes et compris. Et nous ne faisons pas de croisade pour l'avortement. Nous nous battons pour que les femmes soient libres de choisir leur maternité. Ça, c'est fondamental. Et l'important, voyez-vous, madame, c'est que si moi, je suis libre de choisir mes maternités, vous, avec les conceptions que vous aurez et que j'ignore, mais que je crois deviner, quelles que soient vos convictions, philosophiques, religieuses, morales, vous aurez comme moi le droit de choisir. Je veux dire que si vous entendez ne jamais avorter et avoir un enfant chaque fois que vous aurez un rapport sexuel, c'est votre affaire. Ce qui est intolérable, c'est que vous ayant fait ce choix, vous ayez la prétention de l'imposer aux autres. Et la deuxième chose que je veux dire, c'est pourtant le débat qui a lieu aujourd'hui dans le pays, c'est pas autre chose. Une loi qui libéralise l'avortement, en deuxième lieu, car je tiens aussi à signaler que dans la proposition de loi que Choisir a élaborée en tant que travail, puisque Choisir est un mouvement, une association, un politique, n'a pas de député, mais cette proposition a été reprise par le Parti Socialiste, le titre numéro un, c'est la contraception et l'éducation sexuelle. Alors, je voudrais bien qu'aujourd'hui, on nous rende un peu justice, madame. Toutes celles et tous ceux qui, comme vous, se sont battus contre la contraception, contre l'éducation sexuelle, on peut dire que nous avons au moins remporté ce succès-là. L'éducation sexuelle, il me semble qu'on le met en place, peut-être pas très bien d'ailleurs, mais enfin ça vient. La contraception, je n'ai pas trouvé, moi, d'adversaire de la contraception, en tout cas aujourd'hui. On vous dit oui, la contraception, mais pas l'avortement. Mais soyons logiques, l'ultime recours, si un échec, il faut bien permettre à une femme d'avoir les enfants qu'elle désire. Et la deuxième chose que je voulais dire, parce qu'elle me paraît aussi importante, encore que je le répète sans arrêt, c'est qu'il y a un abus de langage, une escroquerie, que je dois dire en tant que mère, je parle en tant que mère et que femme, et parce que vous séparez pour moi faire mère, femme, avocate, militante politique, tout ça c'est la même chose. Je ne suis pas tiroir. Je suis un être humain que je voudrais être à part entière et je voudrais que toutes les femmes le soient et je n'ai pas de cloisonnement. Donc ma bataille, c'est la même. Je n'ai pas changé. Alors, je trouve que vous n'avez pas le droit de dire que lorsqu'un spermatozoïde rencontre par hasard un ovule, il y a un enfant. C'est une escroquerie fondamentale. L'enfant, non. C'est la vie biologique, madame. Mais ce qui est certain, par exemple, et je vous pose la question, est-ce que les femmes, il va y en avoir d'ici au débat à l'Assemblée, il va y en avoir quelques 200 femmes qui vont mourir. Les statistiques sont là. des femmes qui vont tenter de s'avorter clandestinement parce qu'elles préfèrent mourir que d'avoir des enfants qu'elles n'ont pas souhaité avoir, ça vous le savez, ces 200 femmes vont mourir. Alors si vous employez ce langage de vie par exemple, est-ce que ces femmes ont bien une vie? Oui, ça se discute pas. Qui est criminel?
Celui qui tue la vie.
Alors qui, en l'espèce, qui tue ces 200 femmes, madame? En l'espèce, qui tue ces 200 femmes? Pourquoi dans l'œuf? Je vous donne quelque chose de plus concret. Je vous donne des femmes comme vous et moi, structurées, existantes, parlantes.
Qu'il faut faire.
Celles-ci, elles sont tuées par quoi? Par une loi qui est véritablement le Moyen-Âge pour la France. C'est le Moyen-Âge. Plus de la moitié du monde, plus de la moitié du monde pratique l'avortement libre. Et je vous assure que dans ces pays, et là vraiment on peut dire que c'est un... Ça n'est pas du tout la conséquence d'un choix politique ou d'une économie. Ça peut être la Chine ou les États-Unis ou l'URSS. Mais je vous assure que dans ces pays-là, on n'a pas l'impression qu'on a une régression. On n'a pas l'impression qu'on revient au crématoire. On n'a pas l'impression non plus qu'on retourne à la barbarie. Au contraire, le niveau de vie s'élève et les femmes prennent de plus en plus conscience de ce qui est fondamental. Une femme doit commencer par avoir le pouvoir sur elle-même. C'est seulement quand j'ai le pouvoir sur moi que je sais que je peux affronter le reste et les autres.
Il y a un non-sens quand même, parce qu'on parle de liberté, et bien sûr, on la veut, cette liberté, on la revendique, mais en même temps qu'on souhaite cette liberté, on est en train de nous priver de notre libre arbitre. Et ça, c'est très très important de lutter aussi pour notre libre arbitre.
Et le droit à l'avortement, c'est pas seulement une question de liberté individuelle, mais aussi de justice sociale. Les restrictions, d'abord, frappent souvent des femmes qui sont dans des situations très précaires.
Bien sûr, oui. Bien sûr.
Qui n'ont pas les moyens de voyager aussi pour aller interrompre une grossesse non désirée, alors que les femmes les plus aisées, elles, vont pouvoir partir à l'étranger et pratiquer un avortement. Donc, on est quelque part dans une inégalité très, très marquée.
Et en parlant de cette inégalité, on parle des femmes, on parle de la femme, mais on ne parle pas assez, je pense, de la jeune fille. De la jeune fille avec son âge, avec sa maturité, avec cette façon de ne pas être en capacité de réagir parce qu'elle est gérée par des adultes. Et je pense qu'il y a un gros, gros travail aussi à faire parce que l'adolescence, on est en pleine construction et physique et psychologique. Et là, je pense que c'est très, très difficile aussi.
Parce que là, on parle de l'avortement, mais on pourrait aussi, bien sûr, inclure tout ce qui est contraceptif.
Ah, complètement.
Bien sûr. Donc, notamment les plannings familiaux qu'on a en France, mais qui ne sont pas partout, il faut bien dire. Aux États-Unis, cette question est très mal vue aussi.
Oui.
Elle est sûrement pratiquée, mais je veux dire, il y a tellement de puritains avec des méthodes qui sont très controversées. On pourrait parler aussi, bien sûr, des avortements qui étaient pratiqués dans la clandestinité et qui amenaient bien souvent à la mort de la femme ou à que son utérus soit complètement détruit.
Ah oui, il y a eu des dégâts irréversibles. Voilà.
Ces dames, on les appelait des faiseuses d'anges.
Tout à fait. Ouais.
Mais là, on est vraiment dans une époque très, très lointaine.
Mais comme quoi ça existait et que c'était...
Ah, oui.
Il fallait que la femme soit une fois de plus complètement soumise. Et toutes ces choses-là, elles devaient être cachées.
Ah, complètement.
Et c'est comme le divorce. À l'époque, le divorce, ce n'était pas concevable.
Quand bien même le divorce a été autorisé, la femme avait tort. Oui. Et la femme prenait tous les torts.
Oui, bien sûr.
Était considérée même comme une...
Comme la pestiférée.
Une sorcière.
Oui, voilà.
Une sorcière. Et je vous propose justement de faire un petit extrait musical. Une sorcière comme les autres d'Anne Sylvestre.
S'il vous plaît, soyez comme le duvet, soyez comme la plume d'oie des oreilles d'autrefois. J'aimerais ne pas être portefeuille, s'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger. projet. Je vous ai porté vivant, je vous ai porté enfant. Dieu, comme vous étiez lourd, pesant votre poids d'amour. Je vous ai porté encore à l'heure de votre mort. Je vous ai porté des fleurs, vous ai morcelé mon cœur. Quand vous jouiez à la guerre, moi je gardais la maison. J'ai usé de mes prières les barreaux de vos prisons. Quand vous mouriez sous les bombes, je vous cherchais en hurlant. Me voilà comme une tombe et tout le malheur dedans. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Celle qui parle ou qui se tait,
celle qui pleure ou qui est gaie.
C'est Jeanne d'Arc ou bien Margot,
fille de vagues ou de ruisseaux. Et c'est mon cœur ou bien le leur. Et c'est la sœur ou l'inconnue,
celle qui n'est jamais venue,
celle qui est venue trop tard,
fille de rêve ou de hasard. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
Il vous faut être comme le ruisseau, comme l'eau claire de l'étang qui reflète et qui attend.
S'il vous plaît, regardez-moi, je suivrai, je vous prie, ne m'inventez pas.
Vous l'avez tant fait déjà. Vous m'avez aimé servante, m'avez voulu ignorant.
Forte, vous me combattiez,
faible, vous me méprisiez.
Vous m'avez aimé putain et couverte de satin.
Vous m'avez faite statue et toujours je me suis tue.
Quand j'étais vieille et trop laide, vous me jetiez au rebut.
Vous me refusiez votre aide quand je ne vous servais plus.
Quand j'étais belle et soumise, vous m'adoriez à genoux.
Me voilà comme une église, toute la honte dessous. Ce n'est que moi,
c'est elle ou moi. Celle qui aime ou n'aime pas,
celle qui règne ou qui se bat.
C'est Joséphine ou la Dupont,
fille de nacre ou de coton.
Et c'est mon cœur ou bien le leur. Celle qui attend sur le port,
celle des monuments aux morts,
celle qui danse et qui en meurt,
fille bitume ou fille fleur.
Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
S'il vous plaît, soyez comme je vous ai rêvé depuis longtemps,
libre et fort comme le vent. Libre aussi, regardez, je suis ainsi.
Apprenez-moi, n'ayez pas peur, pour moi, je vous sais par cœur.
J'étais celle qui attend, mais je peux marcher devant.
J'étais la bûche et le feu,
l'incendie aussi, je peux. J'étais la déesse mère, mais je n'étais que poussière.
J'étais le sol sous vos pas, et je ne le savais pas. Mais un jour la terre s'ouvre, et le volcan n'en peut plus. Le sol se rompant découvre des richesses inconnues.
La mer à son tour dit vague, de violence inemployée. Me voilà comme une vague, vous ne serez pas noyés. Ce n'est que moi, c'est elle ou moi. Et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant,
celle qui cède ou se défend.
C'est Gabriel ou bien Eva,
fille d'amour ou de combat.
Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui est dans son printemps,
celle que personne n'attend.
Et c'est la moche ou c'est la belle,
fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
S'il vous plaît,
s'il vous plaît, faites-vous léger.
Moi, je ne peux plus bouger.
Voilà une magnifique chanson d'Anne Sylvestre pour clore le chapitre de l'avortement, le chapitre des femmes. On passe tout de suite aux inégalités salariales. C'est un sujet qui fait grincer des dents, hein.
Oui. Alors ça, c'est certain.
À poste et compétences égales, les femmes gagnent en moyenne 15 à 20% de moins que leurs homologues masculins. Et nous sommes bien en 2025.
Oui. Tout à fait.
Un sujet très, très actuel, malgré des législations qui favorisent l'égalité salariale. Les écarts persistent. Alors pourquoi ? En raison de discrimination systématique, de la sous-représentation peut-être aussi des femmes dans des postes de direction. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi on en est encore là ? Ça, c'est la question qui n'a toujours pas de réponse.
Moi, j'en ai bien une. Mais moi,
alors pourquoi ?
Parce que l'homme veut garder le pouvoir, tout simplement.
Ça peut être une des causes possibles. Est-ce qu'on associe toujours la femme à petite éducation ?
Ben, moi, je ne l'associe pas comme ça, parce qu'il y a quand même des femmes très...
Oui, mais est-ce que justement, la croyance populaire...
Dans la vue des hommes, enfin oui, je pense que oui, effectivement. Oui.
D'où le fait qu'elle ne puisse pas gravir les échelons.
Parce que les concours des grandes écoles sont ouverts aux femmes, enfin sont ouverts aux femmes maintenant.
Dans tous les métiers.
Et dans les grandes administrations, on a des femmes. Au gouvernement, sans faire de politique, on a des femmes.
C'est vrai.
Alors, on a des femmes dans tous les corps de métier. Oui. Il y a quand même quelque chose qui est très significatif, c'est quand même l'armée qui s'est bien ouverte aux femmes. Quand on voit qu'au SMV actuellement, il y a autant de jeunes filles que de garçons.
Oui, c'est vrai.
Les corps de métier, notamment dans la gendarmerie, les motards, il y a beaucoup de femmes aussi à présent. Dans les chasseurs alpins, il y a des femmes aussi. Tous des métiers qu'on voyait un petit peu comme des métiers à la Rambo. Hein, Mais pourtant, les femmes sont bien intégrées.
Mais il y a 2-3 ans, celle qui dirigeait la patrouille de France, c'était une femme et c'était la première femme. C'est vrai que diriger la patrouille de France n'est pas n'importe quoi non plus. Elle a dû se battre,
mais elle était compétente.
Elle était compétente.
Puis voilà, ce sont des voix, c'est quand même des personnes aussi qu'il faut enseigner à nos enfants, à nos filles aussi.
Ah là là, oui.
Des exemples à suivre.
Tout à fait. Tout est possible.
Quand on parle de femmes, on associe aussi bien souvent les violences qui sont faites aux femmes avec des chiffres qui ne cessent de monter. Chaque année, on a l'impression que ce chiffre augmente.
Alors moi, je ne sais pas s'il augmente parce que j'ai travaillé 15 ans en prison. Donc j'ai rencontré les agresseurs, les agressés, les agresseuses, parce qu'il y a aussi des femmes, on ne va pas se le cacher. Et je pense que ces chiffres-là, en fait, sont plus importants parce qu'ils sont dénoncés maintenant.
Aussi.
Voilà.
Aussi.
Parce qu'il y a toujours eu, ce que j'ai expliqué le jour à quelqu'un, c'est comme les viols et tout ça, il y en a toujours eu des assassinats aussi, sauf qu'avant il n'y avait pas les médias. Et maintenant, évidemment, c'est dénoncé. malgré qu'il y ait encore une bonne partie qui ne soit pas prise en compte, enfin pas judiciarisée, voilà.
C'est dénoncé, c'est aussi médiatisé.
C'est médiatisé. C'est pour ça qu'on voit autant de faits divers, enfin de choses comme ça. Voilà.
Plus personne n'est à l'abri aussi.
Ah, mais on n'est jamais à l'abri.
Homme politique, présentateur télé,
oui.
Homme célèbre. Et il y a les mouvements MeToo et Balance ton port qui permettent de briser un petit peu cette omerta.
Et heureusement.
Et de faire évoluer, bien sûr, la justice et la société. Il y a des condamnations qui sont données. On ne va pas citer de noms, mais on a tous en tête des affaires
tout à fait.
Actuelles. Hein. Il faut savoir qu'en France, il y a une femme qui meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. C'est énorme. Pourtant, il y a des moyens, hein, les moyens qui sont alloués aux associations d'aide et aux victimes, mais ils restent insuffisants.
Proportionnellement à le nombre de femmes violentées, effectivement, c'est insuffisant. Oui.
Bien sûr.
C'est pour ça que souvent, on les renvoie chez elles.
Voilà. Bien sûr, mais il faut en parler.
J'ai vu un reportage où maintenant, il est possible, alors je ne sais pas si c'est la gendarmerie, la police, en tout cas le système judiciaire, pour les femmes qui sont vraiment en danger, de leur attribuer des téléphones.
Ah oui.
Et ce téléphone comporte avant tout des numéros d'urgence. Et ça marcherait, l'idée fonctionnerait plutôt bien.
Il y a même mieux, hein, puisque le téléphone s'était alloué, le CIDFF notamment avait plusieurs téléphones dans la marque. Maintenant, il y a encore mieux, il y a la montre bracelet.
Hein, ah oui.
Ouais, qui permet d'actionner tout simplement un bouton qui est attribué.
Pour que ce soit
par
plus
contre,
discret,
pour obtenir
peut-être.
Un téléphone ou un autre système, c'est tout un processus
Je crois que malheureusement, il faut d'abord avoir été
un parcours du combattant.
Donc on rappelle, en France, la plainte, c'est le premier chemin. Allez porter plainte, parlez-en.
Et alors ensuite... ça, c'est un chemin compliqué pour l'avoir vécu. Enfin, je peux parler de moi, j'ai aucune honte ni gêne à parler de ça. C'est un chemin très compliqué.
C'est un chemin individuel en plus.
C'est un chemin individuel. Moi, je suis passée donc par le CIDFF, puis après chez l'avocate, et après je suis allée au commissariat. Ça va que à l'époque, je travaillais en prison et que la personne qui m'a reçue me connaissait, c'était une femme. Et elle m'a dit là, j'ai l'impression que vous venez dans le cadre privé. Et j'ai dit oui. Et elle m'a dit, vous connaissez ce que c'est que raconter. Et j'ai dit oui, je sais. Et ça a été très compliqué, effectivement. Mais moi, j'ai cette façon de m'exprimer que d'autres femmes n'ont pas. Parce que voilà, il y a aussi des femmes qui sont...
Il y a l'isolement, bien souvent la victime
qui sont
isolées.
Enfin voilà, il faut déjà pouvoir... Bon, on m'a encouragé à le faire, je ne suis pas allée tout de suite non plus. Mais c'est... Voilà. Je suis tombée en face d'une personne qui écoutait. Ce n'est pas toujours le cas. Mais de plus en plus quand même, les gendarmes et la police sont formés par des collègues à moi, des psychiatres, des psychologues, justement aux violences conjugales, aux violences sexuelles, enfin voilà.
Enfin, de toute façon, il y a un seul mot, il faut oser franchir le pas et briser ce silence.
Mais parfois, ça prend beaucoup d'années.
On continue toujours dans le cadre de la journée des droits internationale des femmes. On va parler d'un autre sujet qui lui fait grincer les dents et qui est bien sûr de moindre gravité que les violences faites aux femmes. C'est la charge mentale et la double journée de travail. Les femmes qui assument une grande part des tâches domestiques et éducatives, même lorsqu'elles travaillent à temps plein, c'est une inégalité qui est invisible, qui affecte le bien-être et qui affecte aussi les opportunités professionnelles et leur épanouissement personnel. Comment accepter des heures sup, comment accepter des voyages dans le cadre d'un déplacement pour le travail quand on a des enfants à charge,
mais
un
qu'on est obligé de
à la
les
maison
assumer.
Qui fait pas grand chose,
j'allais dire presque un mari à charge, enfin un conjoint à charge,
un autre enfant
à charge. Mais c'est vrai que rares sont les couples qui arrivent à trouver cet équilibre. Rares sont les hommes qui arrivent à s'investir autant qu'une femme.
C'est vrai.
Pourquoi ? Il y a encore une fois une question d'éducation.
Je pense, oui, et c'est aussi notre faute, ça, je pense, de n'avoir pas éduqué nos fils, en leur disant, écoute, tu dois faire comme la femme fait. Enfin, c'est pas la peine de venir lui dire « Est-ce que je peux t'aider ?» Non, c'est pas l'aider, c'est participer aux tâches quotidiennes de la maison. Parce qu'eux, ils ont toujours l'impression qu'ils viennent nous aider ou qu'ils gardent les enfants. Mais ce sont les leurs, en fait, aussi. Donc, ils n'ont pas à les garder. Ce ne sont pas des moutons. Ouais. Ils ont à s'en occuper au même titre que nous. Et ça, c'est vrai que c'est encore très compliqué. Ouais, même dans les jeunes, hein, moi, j'entends des...
Alors, par rapport à ce que tu dis, Marie-Ange, moi, j'ai envie de dire que nos jeunes, à nous, nous, on commence à faire partie, justement, de cette génération qui commençait... Mmh. À, alors, je dis « c'est » parce que, de par notre grand âge, enfin, le mien, en tout cas, qui commençait à s'émanciper par rapport à cette vie professionnelle, à cette vie de famille.
Oui.
Et nos enfants ont commencé à voir... ce qui pouvait se passer auprès de leurs parents. Mmh. Et bon, moi, personnellement, j'ai deux grands-enfants, 34 et 30 ans. Et quand je les vois dans leur vie de famille, ce ne sont quand même pas les hommes d'il y a 50 ans. Hein,
Ah oui, non, ce ne sont pas... Oui, évidemment, oui. Mais il y a encore de petites choses à améliorer
quand
même.
Oui, tout à fait,
Voilà. Voilà.
Bon, bah, il va falloir les former, mais former nos filles aussi pour qu'elles puissent leur dire « Oh, Coco, tu lèves
moi, j'ai
tes fesses du canapé. »
Qui dit ça à son chéri qui est pourtant très... qui prend part, mais qui vient toujours demander « qu'est-ce que je dois faire ?» Voilà, de lui-même, il n'ira pas faire les courses ou faire le ménage. Il attend toujours l'impulsion de la femme, pourtant ils sont jeunes, pour le faire. Ouais, sinon, de lui-même,
c'est pas inné.
C'est pas ancré encore.
Il y a un manque d'initiative.
C'est ça, voilà. Il le fait, mais il faut lui dire. Ouais. Et c'est ça, la charge mentale. Ma fille me dit « mais maman, la charge mentale que j'ai est impressionnante. » J'ai dit « bah oui.
» Mais on parlait tout à l'heure... de famille, d'enfant, c'est vrai que c'est... Bon, le terme enfant, je ne sais pas, mais c'est une personne à gérer en plus.
Ah oui, complètement.
Par rapport à cela,
Oui.
On continue dans le thème un peu plus profond cette fois-ci, c'est les violences obstétricales.
Wow. Alors ça...
C'est de plus en plus de femmes qui dénoncent aussi ces violences qu'elles ont subies dans le cadre médical. Hein. Mmh. Il y a des absences de consentement total. Il y a des gestes qui sont invasifs. Il y a le manque d'écoute, des douleurs aussi qui sont exprimées. Encore une fois, on n'a pas de réponse. On ne peut pas apporter, là, dans cette émission, des réponses. Notre corps, c'est bien ça.
Notre corps nous appartient et on a un ressenti. Et quand on a mal, on a le droit de le dire. Enfin, on doit le dire. Mais les médecins en face, eux, ont le savoir médical. Oui. Parce que c'est ça aussi, hein, le prestige. Enfin, moi, j'ai travaillé avec des médecins, donc je connais bien la dynamique. Et on ne peut pas leur... Enfin, voilà, ils ont le savoir. Et nous sommes les patientes. Et si on vient dire que, voilà, ça ne va pas, on a mal... On nous a longtemps dit, et nos mères et nos grands-mères nous disaient ça, qu'il faut souffrir. Enfin, c'est ça aussi.
Même, on vient d'une culture.
Même dans l'accouchement.
Voilà, enfanté.
Enfanté dans, la douleur. Et ça, c'est... Alors, pour moi, c'est plus ancré en moi, mais jamais j'ai voulu souffrir, même si... Ben voilà. Mais on l'entend. On l'entend encore. Et ça, c'est important de le dire et de le...
Alors, le problème, c'est pas tellement ce que nous ont transmis nos mères et nos grands-mères, c'est des écrits qui restent. Hein.
Aussi.
Quand on prend la littérature française, la femme infante dans la douleur, que ce soit écrit par Victor Hugo ou contemporain, c'est ancré.
C'est ça, tout à fait. Et concernant ces violences obstétricales, là, oui, il faut absolument dénoncer ça. Hein. Parce que c'est pas normal de souffrir et de subir aussi des abus, parce que ça peut tourner aussi en abus sexuels. Hein,
on est en plein dedans, il y a quand même des affaires très très graves, très lourdes.
C'est ça.
Le féminisme moderne qui prend des nouvelles formes en 2025 avec des discours un petit peu plus inclusifs et accessibles au grand public, des figures telles que Emma Watt qui nous rappelle que le combat pour l'égalité, c'est aussi un combat pour l'éducation, la dignité et la liberté de toutes les femmes. Alors c'est les jeunes générations à présent qui doivent prendre ce relais, qui doivent s'engager, qui amplifient ces voix féministes sur les réseaux sociaux, contredire celui qui va remettre en question toutes ces acquis et ne jamais perdre un pas dans la bataille, parce que malheureusement, ça reste une bataille de tous les jours. Alors, il y a des mouvements qui inspirent des politiques publiques plus progressistes, mais qui font face à des résistances qui sont encore conservatrices, que ce soit d'ordre religieux. Oh. On sait que les extrêmes, de toutes sortes d'extrêmes, ne sont pas bonnes.
Tout à fait.
Il y a des campagnes de désinformation qui cherchent à décrédibiliser le féminisme aussi. On associe bien souvent le féminisme à une espèce d'hystérie collective qui nous prendrait, mais qu'est-ce qu'elles ont à vouloir s'émanciper?
À la sorcière. C'est ça, en fait.
Quand on sait aussi que le 8 mars, on entend et on lit, c'est la journée de la femme.
Mais moi, j'ai les poils qui, qui s'érissent comme ça.
Mais non, on n'en veut pas de vos fleurs, gardez-les.
Du tout.
Ce n'est pas la journée de la femme. Et ça, il faut reprendre les gens systématiquement.
C'est ce que je fais, moi, enfin, sur les réseaux.
Il y a les blagues sexistes. Hein. Elles ont une journée dans l'année et nous, on a les 364 autres jours.
Mais quand tu dis, Sophie, que c'est la journée de la femme, ce qui est complètement vrai, ça illustre mais à 300, 400, 500, autant qu'on veut de pourcents, le problème que l'on a et pourquoi on doit se battre.
C'est ça.
Et il n'y a pas grand-chose d'acquis, même si on a énormément avancé, il y a encore un gros travail à faire.
Tout à fait.
Alors, messieurs, pitié, gardez vos fleurs, gardez vos cadeaux pour le 8 mars.
Faites-la à la Saint-Valentin.
Voilà. Et gardez aussi l'histoire de dire, oh bah pour cette journée, je vais te faire la vaisselle. Non, tu vas pas me faire la vaisselle.
Tu vas faire la vaisselle.
On se rend compte que malgré les avancées, le chemin est encore long. C'est l'égalité qu'on demande, tout simplement, qu'on revendique. On n'a même pas à supplier ni à dire, s'il te plaît, donne-moi l'égalité. Non. Il est essentiel donc de transmettre ces valeurs aux générations futures.
Alors moi, je voudrais féliciter certains hommes, justement. Parce que ça m'émeut toujours, parce qu'on peut en parler des hommes quand même.
Bien sûr.
Qui se sont séparés, ou divorcés, enfin, peu importe, et qui s'occupent de leurs enfants vraiment. Parce qu'ils ne les gardent pas. J'ai félicité un homme dernièrement, justement, qui m'a dit « J'ai mes filles aujourd'hui, c'est mes princesses, je suis avec elles. » Et je lui ai dit « Je te félicite. » Il m'a dit « Pourquoi ?» Je dis « Parce qu'il est rare de voir des hommes divorcés ou séparés qui s'occupent réellement de leurs enfants. »
Ça me dérange de dire « Je te félicite » par contre. Moi, ça me dérange. C'est naturel.
Oui, mais comme il n'y en a pas beaucoup, tu vois, moi, ça m'émeut toujours de voir qu'il y a quand même ces hommes-là qui, eux, prennent vraiment leur part de responsabilité dans l'éducation, enfin, dans tout ce qui concerne leur enfant. Et ça, je trouve ça admirable parce qu'il n'y en a pas beaucoup, et je le sais.
Ça devrait être la norme.
Et ça devrait être la norme. Alors oui, je l'ai félicité parce que ça m'émeut. Enfin voilà, on n'aurait pas, comme tu dis, on n'aurait peut-être pas à le faire. Mais il était ému justement que je lui dise ça. Il m'a dit « Ah oui, j'ai eu parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Voilà. » Parce que les pères comme ça qui ont leurs enfants souvent se sentent... étouffé, oppressé, parce qu'il faut s'occuper de ces enfants-là qui vont me bouffer tout mon week-end alors que j'aurais dû les taper un verre de bière. Non, mais c'est ça, tu vois, c'est un peu grossi. Voilà. Mais donc, il n'y en a pas beaucoup et il faut en parler quand même.
Alors, pour conclure cette émission, qu'est-ce qu'on peut dire? Que les combats ne seront jamais finis, mais qu'il faut continuer d'écrire l'histoire?
Complètement.
Oui, c'est bien dit.
Nous sommes là pour ça. Oui, c'est bien dit, effectivement, oui. Unissons-nous, surtout, entre femmes et hommes aussi.
Dénonçons.
Et dénonçons. À chaque fois qu'on voit des violences aussi, parce qu'il faut, quand on les voit, les dénoncer, c'est de notre devoir civique. Oui. Parce que moi, j'entends souvent « Ah bah oui, mais c'est derrière la porte. »
C'est pas mes affaires,
Oui, mais quand la femme sortira dans le cercueil, on viendra t'interroger. Et tu seras responsable de ça. C'est ça qu'il faut dire aussi aux gens. On est responsable de chacun. Et on ne peut pas laisser les gens se laisser tuer. Voilà. Quand on sait, on dénonce.
Merci à vous.
Merci.
Rechat ruach yam menashevet meisham uchvisa mitnafnefet
לצילי החומה. בין אל-ארד ואל-סמא נאס כתיר בעישו סמא מתחפו תחלמו בסלם ואל-אמן מתיים סו חומת הפחד ושבתי מגלותי יפתחו
Palestinian sisters. I want to thank you and to let you know that in the world that we live in, peace is possible only when women of integrity and faith stand up for the future of their children. Congratulations. It is my hope that you will continue to battle for peace in a constructive way, and I look forward to the day that I will come and join you. Thank you for the children of Israel. Thank you for the children of Palestine. Thank you. Peace. Shalom.
Bring them.